102.1,
o programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá à tous, il est 14h02 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de la station Cap Magellan. Et votre trio de choc préféré est de retour, mais pas seulement. Déjà les garçons, Ricardo, Antonin, comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Très belle journée, alors que cette semaine elle a fait super froid, donc ça fait plaisir.
Je confirme, il a fait froid, je pense que j'ai un peu mal à la gorge encore. Hein. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans les locaux de Radio Alpha, puisque nous accueillons aussi Laura et Sophie. Comment ça va les filles?
Ça va, super, merci.
Ça va.
Vous êtes au taquet là? Pas trop stressé?
Ça va.
Ça va.
Ok. Et ne vous en faites pas, nous allons vous présenter d'ici quelques instants. Et aujourd'hui au programme culture, sport, musique, surprise et surtout cinéma, puisque nous avons avec nous le réalisateur Joël Cartaxo-Anjos. Je ne sais pas si je le dis bien la française.
Super bien.
Comment tu vas?
Ça va super et toi?
Bah, super aussi, on est très très contents de te recevoir. Et restez avec nous pour en savoir plus sur son travail. Ce sera au moment de l'interview à partir de 14h50. Et en attendant, je propose qu'on s'écoute tout de suite Die with a Smile de Lady Gaga et Bruno Mars.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you.
De retour sur Themestadt 2.1 et nous vous avons promis des surprises. En voilà une. Laura et Sophie font elles aussi partie de l'équipe de Themestadt 2.1 et de la grande famille de Cap Magellan. Et oui, qui l'eût cru, nous ne sommes pas que trois finalement. Ce sont nos expertes. C'est spécialistes finalement. Elles ont chacune un domaine de prédilection et viendront tous les mois vous en parler. Sophie, présente-toi.
C'est mon moment là, je le sens. Oui. Alors, hello à tous. Déjà, je suis super contente d'être là aujourd'hui. Et bien sûr, j'ai hâte de partager avec vous à travers les rubriques, d'échanger avec vous, Julie, Ricardo, Laura et Antonin. Et ravie de pouvoir rencontrer de super artistes prochainement, déjà là aujourd'hui. Et à travers ma rubrique, donc Quoi Lab Soit Quoi Real, je vous ferai découvrir ou redécouvrir une personnalité lusophone intéressante qui m'a marquée ou qui m'a interpellée.
Franchement, ça promet, hein. Ça a l'air très sympa.
Pas mal, hein.
Peut-être que tu vas nous présenter nous. Je rigole.
Pas tout de suite.
Et Laura, qu'est-ce qui nous attend avec toi, Laura ?
Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Laura et je partagerai avec vous ma passion pour l'art, et notamment l'art urbain, à travers la rubrique Arte y Ondes. Pendant 5 ans d'études lusophones, j'ai pu suivre l'actualité de Cap Magellan. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Themestadt. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'intégrer cette équipe.
Et c'est un plaisir pour
un
nous
plaisir
aussi.
Un plaisir partagé.
Exactement. Et aujourd'hui, vous passez juste faire un petit coucou, mais on a vraiment hâte de vous découvrir mieux dans les prochains mois, prochaines semaines. Et d'ailleurs, au moment de l'interview, Laura et Sophie auront une question pour toi, Joël.
Ok.
Pas de pression, hein. Elles sont très gentilles, pas de problème.
Très bien.
Je vous propose que tout de suite on s'écoute Sagrado Plufano de Wizzasons et Kay Black et on se retrouve d'ici 5 minutes pour parler de cinéma dans Ushkedems de Julie.
Dirijo sozinha pela tua rua, deitada na cama com a camisa tua, mania de mim. Só nós dois, enfim. Fim de tarde em Tom G, dá vontade de beber mais um trago de você. Faz fumaça pra aquecer. Me olha e me encara, eu sou a tua caça. Me engole e me encaixa. Pode me comer, pode me furar, pode me. Me encontra em todo mundo. Procure e me destrincha a fundo. Me diz qual amor não é confuso. Minado e inseguro. Ciúme de um fatídico segundo. Sagrado amor profano.
Da gente for a fundo medo, a te recordar que eu quis enfrentar todo esse sentimento confuso, que nado em escuro, como um mergulho raso, buscando algo profundo. Não que eu seja inseguro, mas cê nem me deu confiança. Eu tentei preservar o futuro em nós. Vai e vem nessa distância. As lembranças só afetam mais. Fim de tarde nos lençóis. Bateu saudade de você. Sentada na cama com a minha peita branca. Me beija, me arranha, pede pra eu. Pede pra eu fazer, pra satisfazer o seu prazer na cama. Anoiteceu, o quarto entra em chame. É você quem chame, eu não vou negar que depois das brigas eu te desejo mais, mais. Quero te ouvir falar.
Me olha e me encara, eu sou a tua caça. Me engole e me encaixa. Pode me comer, pode me furar, pode me. Me encontra em todo mundo. Procure me destrincha a fundo. Me diz qual amor não é confuso. Minado e inseguro. Ciúme de um fatídico segundo. Sagrado amor profano. Impuro amor profundo.
Se a gente for a fundo mesmo, pra te recordar que eu quis enfrentar todo esse sentimento confuso. Minado e escuro. Como um mergulho raso. Buscando algo profundo.
Rádio Alfa. Está ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga e estamos consigo até às 4. Chegou a tempo para a minha rúbrica e hoje quis ficar no tema do cinema e dos documentários com o último filme da realizadora Cláudia Varjão, que já passou pelo Tempestade 2.1, chama-se Cora. Já ouviram aqui falar deste documentário ou não?
Não.
Joel, sim, mas ainda não o viste.
Ainda não tive a oportunidade de o ver.
Mas tens que ter a oportunidade.
Ah, espero, com isto estou impaciente.
Este documentário foi convidado para uma sessão especial na Giornate degli Autori do Festival de Veneza. Se calhar tu sabes o que é.
É sim, porque o último filme da Cláudia já lá tinha passado, o Lobicão, e tinha sido premiado para o seguinte semana, na altura. E portanto acho que, pronto, que há uma ligação com o festival que faz com que faça sentido que este projeto volte a passar.
Exato, é um festival muito importante no mundo do cinema documentário.
É o mais antigo festival do mundo, portanto. E é uma sessão, portanto, é uma secção em que é mesmo uma visão de autor que é defendida com um cinema que é extremamente rigoroso, portanto, é muito interessante que o filme da Cláudia passe por lá.
Esperemos que os seus também vão lá passar.
Esperemos.
E para voltar então à Cora, este documentário dura menos de 30 minutos e na verdade tem assuntos um pouco similares ao teu primeiro documentário, Silwan Kabul.
Uhum.
É como se fosse, para mim, é como se fosse uma parte 2, mas com a personalidade da Cláudia e em ligação com Portugal e não com a França. Mas já lá voltamos a isso. Neste filme, então, Cláudia Varjão entrevistou 5 refugiadas de guerra de 5 países diferentes: Afeganistão, Rússia, Síria, Sudão e Ucrânia. Tu tens a ligação com o Afeganistão.
Uhum.
Pronto, não com todos, mas sim. E é muito comovente porque visualmente não podemos ver as pessoas, não são mostradas, só por algumas fotos, assim, de fotomaton, etc. E nós podemos ouvir ao mesmo tempo que vemos o que está a passar, que vemos cenas do cotidiano e essas fotos, ouvimos as testemunhas na língua deles, na língua delas, porque são só mulheres. O que acho que ajuda a ser mais comovente, mas não se preocupe, e obviamente temos subtítulos, porque acho que toda a gente não fala todas essas línguas. E aqui está o resumo que pode ler no site da Cláudia Varjão. Cora traça a silhueta de mulheres refugiadas a viver em Portugal. Em comum entre si, trazem o passado no corpo e nas palavras, bem como aqueles que amam impressos em retratos. A partir dessas memórias, acedemos ao olhar íntimo e político de quem reconstrói o seu presente. É muito giro. Só que com isso acho que dá vontade. E eu acho que o que acrescenta à singularidade do filme e à emoção, na minha opinião, é o facto de serem preto e branco. Algo que tu não fazes, por exemplo. Relembro também que a Cláudia Varjão é uma realizadora de vários combates, nomeadamente a comunidade LGBT, mas também os direitos das mulheres e as injustiças em geral. E é mesmo o que sentimos em Cora, já que são as mulheres que têm a palavra e também uma mulher trans, o que é pouco comum. E no final, ouvimos também algumas testemunhas do que se está a passar em Gaza, algo mais uma vez muito importante para a realizadora, que comunica muito sobre o assunto nas suas redes sociais. Provavelmente já viram. E em dezembro de 2023, eu tive a sorte de entrevistar a Cláudia Varjão para o site da Cap Magellan e falamos, nomeadamente, do impacto que a arte pode ter.
Na tua arte, nos teus filmes, queres também mostrar aos jovens queer e que têm dificuldade em mostrar a sua personalidade,
uhum,
como é que é possível viver e como é que devem, uhum, ser o que são?
É uma pergunta interessante, porque sabes, eu acredito que o gesto artístico não é um gesto com uma meta racional, ou seja, um pintor não pensa no que é que vai dar às outras pessoas.
Sim.
É um impulso de risco, espontâneo, de experimentar, de fazer, de ir caminhando. E, portanto, não se está a pensar, ai, o que é que os jovens da Arménia vão achar deste filme? As pessoas do Porto vão achar do filme?
Sim.
Nunca penso em ninguém enquanto estou a fazer um filme. Em todo o caso, quando partilho um filme com o público, é aí que eu percebo o impacto que aquilo que eu faço pode ter nas pessoas, positivo ou negativo. Há pessoas que se zangam. Isto é uma pouca vergonha. Há pessoas que se zangam e eu também percebo esse impacto. mas é muito para além de mim. Agora, se me disser, ou se alguém me vier dizer obrigado que o seu filme ajudou-me a ter menos vergonha da manhã ir para a escola vestido de saia, enquanto meu pai me disse, sempre disse que eu tenho que usar calças, eu fico muito contente. Se o filme ajudou, fantástico, porque eu também, quando era adolescente, procurava filmes, música que me ajudasse a sentir menos sozinha.
Todos fazemos isso.
A arte tem esse lugar de acompanhar e de nos dizer, está tudo bem.
Yeah.
É quem tu quiseres ser. Isso é fabuloso. Isto tem a ver com a conversa que tivemos antes sobre ti, sobre mim, sobre sermos jovens. Isso é. Se me trazem esse lugar, dizer, olha, o teu filme ajudou-me nisto, é um plus para mim. Agora, eu, enquanto realizadora, só penso em ser capaz de fazer aquilo que eu imaginei que queria fazer. Isso já é muito difícil.
Obrigada, Cláudia, e parabéns pelo trabalho mais uma vez. E estamos à espera de mais e mais filmes. E já que estamos a falar do impacto da arte sobre as pessoas, eu queria conhecer também a vossa opinião e, sobretudo, Joel, se há alguma coisa que tu procuras com os teus filmes ou não. E ter um impacto na vida das pessoas.
Eu acho que o cinema tem um poder muito grande de chegar às pessoas e de criar uma reflexão. Aquilo que eu gosto no cinema, aquilo que me conduziu até ao cinema, aquilo que me comove no cinema, é quando eu sinto a experiência de um realizador ou de uma realizadora, um grito que vem do outro lado, uma experiência que é partilhada para criar uma reflexão sobre o mundo, como uma janela que se abre. E eu acho, portanto, que o cinema não é como um hospital que pode salvar vidas, etc. Mas acho que os espectadores que vão ao cinema podem ter reflexões que nunca tiveram até então, etc. E aí podem, efetivamente, ter um impacto nas pessoas que estão à volta deles. Seguidamente. Portanto, acho que é um média muito, muito poderoso o cinema.
Sim, e vemos também que a representação no cinema é alguma coisa que vimos muito também com os filmes da Disney, com crianças que viram outras crianças que são parecidas a eles e que têm agora uma representação num filme. Eu acho que isso é muito forte, tem um impacto muito, muito grande. Para acabar, eu queria só dar uns beijinhos a Lise Martins, que nos enviou uma mensagem que está a ouvir, e também ao Luík, que está sempre a ouvir-nos todos os sábados. Grandes beijinhos. E continuamos daqui a 5 minutos com o Ricardo em Golo. Vamos ouvir Só Fé de Grilo e depois Alpha Live.
Só peço a Deus muita saúde e que Ele continue aí nos abençoando para que a gente consiga comprar o mé, o leitinho dos meninos e o modo da mulher. O resto é só fé.
É o Grilo.
Nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós e a nossa correria. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé, o leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé, o leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. É o grelo. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós e a nossa correria. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não.
só preciso de um dinheiro pra comprar um é. O leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Preciso de um dinheiro pra comprar um é. O leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. Só quem é humildade vai cantar assim, ó. Só preciso de um dinheiro pra comprar um é. O leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um é. O leitinho das crianças e o modo da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Muita fé, 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 fé.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha. D'ici 15 minutes, ce sera le moment de l'interview avec Joël. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le WhatsApp au 06 62 10 98 60. Je répète, 06 62 10 98 60. Je suis sûre que les gens ont beaucoup de questions pour toi, Joël. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Gordo avec Ricardo. Quels sont les infos sportives qu'il ne fallait pas manquer cette semaine alors ?
Il ne fallait surtout pas manquer la médaille d'or de Madalena Costa. La jeune portugaise de seulement 15 ans s'est imposée lors des championnats du monde junior de patinage artistique à Rimini en Italie. Désormais double championne du monde, Madalena Costa souhaite inspirer la prochaine génération de patineurs et continuer à écrire l'histoire non seulement dans mon pays, mais aussi dans le monde entier. Fin de citation. Des médailles aussi pour le sport universitaire, puisque João Pedrosa et Hugo Cambuche ont remporté la médaille de bronze de beach volley lors des championnats du monde universitaire à Rio de Janeiro. Mais selon eux, l'objectif n'a pas été atteint. Le duo souhaitait confirmer son titre mondial remporté en 2022 à Marseille, autre ville du Brésil. Enfin, on finit par les Jeux Olympiques. Et oui, encore une actualité sur Paris 2024. Et je vous promets que c'est la dernière fois. En ce moment même a lieu la parade des athlètes français olympiques et paralympiques sur les Champs-Élysées. Remise des médailles ensuite, et puis une grande soirée festive pour clore ces Jeux. Profitez-en aussi pour passer à la boutique officielle sur les Champs-Élysées. Tous les articles sont à moins 50%.
Ah bah mais merci. Attendez d'abord de finir l'émission, t'as plus tard quand même.
Oui, hey. Oui. Évidemment.
Évidemment. Merci Ricardo pour ce bref récap et du coup cette promotion incroyable. E continuamos agora em português para salientar uma informação que vai desenvolver um pouco mais. Vai ser assim todos os sábados, mais ou menos.
Sim, sim.
Houve então esta semana uma pequena revolução no mundo do futebol.
Uma pequena revolução, mas com muito sentido, porque o Futebol Clube do Porto adotou uma nova estratégia para os seus sócios, a Operação Transparência. A partir desta semana, todos os sócios do Porto terão acesso aos segredos do clube no espaço chamado Portal da Transparência. Poderão ver o estado das finanças, a política de transferências, os negócios com os patrocinadores, a organização do clube, muitas funções para lutar contra a corrupção. Vamos agora ouvir o titular do portal.
Já está disponível o Portal da Transparência, uma plataforma pioneira no panorama desportivo nacional, onde o Futebol Clube do Porto irá prestar contas aos verdadeiros donos do clube, os associados.
Este portal está agora disponível no site web do clube e a Carta dos Sócios está agora disponível online.
Afinal, é uma grande mudança, não é uma pequena. E é verdade que temos tendência, não sei vocês, mas em pensar que os clubes de futebol querem esconder a verdade aos adeptos e aos seus sócios. Então, porquê é que veio agora a decisão no Futebol Clube do Porto?
Porque o presidente quis marcar a ruptura com a antiga política de 40 anos da presidência do Pinto da Costa. Villas Boas anunciou em agosto que o clube tinha uma dívida estimada a 500 milhões de euros. É enorme para um clube português. Era então necessário de dizer a verdade aos 131 mil sócios do Porto. Uma decisão assumida e que fez prazer aos adeptos do clube, evidentemente. Desde a eleição, o Futebol Clube Porto vendeu jogadores para mais ou menos 60 milhões de euros. Para o presidente André Villas Boas, esta etapa era necessária.
Acima de tudo, é um passo significativo em termos de transparência do Futebol Clube do Porto e na sua relação com os associados. No portal da transparência, que era também uma das grandes bandeiras da nossa campanha eleitoral, que felizmente resultou na eleição.
Quatro meses após a sua eleição, o presidente dos Dragões continua a transformação do Porto. O Jornal Record anunciou esta semana que André Villas-Boas decidiu trabalhar gratuitamente para o clube, um símbolo importante para o antigo treinador dos Azuis.
Tu estás contente com essa revolução, então, já que és do Porto?
Óbvio, claro que estou muito contente, porque imagina, muitas dívidas, muitos problemas, assim é bem melhor dizer a verdade, assim podemos perceber a estratégia da direção.
E já que estamos a tentar conhecer a Laura e a Sophie melhor, vocês são de que clube?
Benfica, bem sûr.
Ah, muito bem.
Benfica.
Ah, pronto. Antonão, é nós sabemos.
E Joel?
Eu não ligo muito a futebol. Mas,
é simples. É uma resposta muito simples.
A primeira vez que vi um jogo no estádio foi recentemente por causa dos Jogos Olímpicos e gostei-me da experiência, portanto, se calhar terei uma resposta daqui a alguns meses.
Olha, okay. Muito bem.
Estou numa conversão, acho eu.
Ok. Depois diz-nos a resposta, está bem?
Ok.
Estamos a 3 Benfica contra 2 Portos, não? Só digo isso.
Vamos ver o próximo clássico.
Mas então, obrigada, Ricardo, para essa informação. Acho que vai ser uma revolução mesmo no mundo do desporto do futebol português, finalmente. E continuamos consigo na rádio que nos liga até às 4. Fica connosco daqui a 5 minutos em entrevista com o Joel. Ouça primeiro Sois pas timide de Gims.
Attention, j'arrive, t'es mal le charisme. Mets pas dans ta story, j'suis blacklisté sur Belize. Sur le côté VIP, que des 10 sur 10, j'suis dans la zone à risque. J't'ai vu sur le périph', tu faisais la timide. Tu m'as vu sortir d'un bolide à 6 chiffres. J'ai vu ton sourire, donc tu n'es pas timide. J'ai beaucoup d'ennemis, j'vais remonter. D'une façon plus poétique, t'es mon oasis dans cette capitale aride. Capitale aride, alors on s'éclipse dans la zone à risque. J'ai vu sur le périph', tu faisais la timide. Tu m'as vu sortir d'un bolide à 6 chiffres. J'ai vu ton sourire.
De points sur Radio Alpha, vous êtes pile à l'heure pour l'interview avec Joël Cartaxo-Anjos, réalisateur et notamment à l'origine du film documentaire Nos printemps passés ne reviendront plus. Déjà, merci d'être avec nous. J'espère que tu as passé un bon moment déjà.
Et bah super, vous êtes adorables tous.
Oh, c'est gentil. Alors, je te propose tout de suite de parler de ton dernier projet sorti, celui grâce auquel je t'ai découvert, sincèrement. Donc, Nos printemps passés ne reviendront plus. C'est un film documentaire de 14 minutes qui a été diffusé sur France TV durant le mois de juillet, qui était disponible en replay notamment. Tu y montres tes grands-parents pendant le confinement de 2020, alors que ta grand-mère est atteinte d'Alzheimer. Et initialement, ce film n'était pas destiné au grand public, mais juste pour toi. Pourquoi avoir voulu le partager au final ?
Ben, en fait, moi, j'ai grandi dans un petit village au Portugal, dans la zone de Tomar, dans le centre. J'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents, beaucoup de temps pendant mon enfance, quand je rentrais de l'école et tout ça. Et donc c'est des images en fait de voir mon grand-père se raser en fin de journée, voir ma grand-mère couper les choux pour les poules, etc. Ce sont des images qui sont très fortes pour moi et c'est des images qui m'ont construit d'une certaine manière et mon imaginaire et mon enfance. Et donc quand je suis parti pour venir vivre à Paris, donc j'avais 19 ans, j'avais toujours un peu cette idée en tête de revenir, de faire des images, mais pour regarder comme une forme d'archive. Donc j'essayais de prendre des photos, j'essayais de filmer un peu, sauf que je trouvais pas vraiment ma place. Je savais pas pourquoi je filmais, je savais pas quel était le but de ça en fait. C'était un peu aléatoire et je me sentais un peu mal à l'aise et je trouvais que mon regard n'était absolument pas juste. Et donc ma grand-mère, elle était diagnostiquée donc malade d'Alzheimer ça chutait assez vite, on va dire. Et à un moment, elle est partie vivre dans un EHPAD. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était un peu le moment maintenant ou jamais pour faire des images, pour garder une trace, puisque je voulais pas la filmer dans un état trop... avancé. Voilà, je voulais garder une forme de dignité aussi dans la manière de la montrer, la garder, enfin en image en tous les cas. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à filmer comme ça pendant une semaine de vacances au Portugal. Et lorsque je l'ai filmé, donc c'était pendant entre deux confinements, donc il y avait la vitre dans les EHPAD qui séparait donc les résidents des gens qui venaient visiter. Et à ce moment-là, quand j'ai vu ces images, quand j'ai vu le regard de ma grand-mère qui se perdait, qui revenait, dans quelque chose d'un peu incessant et un peu, ça m'a un peu perturbé. À la fois, je me suis dit que ça racontait beaucoup plus que mes souvenirs d'enfance et que ça racontait quelque chose de plus grand et qui pouvait éventuellement aller vers d'autres personnes. Et puis, les circonstances ont fait qu'il y a eu un appel à projet du Grec, qui est une société de production qui produit des premiers courts-métrages, premier, deuxième court-métrage. Et le film, le projet à l'époque a été lauréat. Tu devais envoyer 7 minutes d'images, un truc comme ça. Et j'ai envoyé les images, ils m'ont dit oui. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça.
Et puis c'est vrai qu'au final, la maladie d'Alzheimer, ça touche quand même une bonne partie de la population. Et c'est quelque chose qui reste encore un tabou aujourd'hui, je trouve. Enfin, moi, j'en entends rarement parler. Et je trouve que c'est important d'ouvrir la parole sur le sujet. Ça a été un objectif aussi.
Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Je pense que, je peux pas mentir, il y avait quelque chose de très personnel déjà, plus qu'engagé au départ. Après, je pense qu'il y a aussi, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus en projection, où les gens se revoyaient leur grand-père ou leur grand-mère ou leur tante et quelque chose de l'ordre de la chute. Parce qu'au final, je pense que le film parle de l'Alzheimer, mais ça parle plus, j'ai l'impression, ou dans l'intention en tous les cas, de mon grand-père et de ce que c'est que de voir partir quelqu'un qui reste en vie et de voir partir et s'effondrer toute une partie de souvenirs de 60 ans. Ils ont passé 60 ans ensemble, main dans la main, tous les jours, dans une mécanique de vie où on coupait les choux le matin, on allait arroser l'après-midi, on se disait bonjour, on se disait bonsoir. Enfin, ils sont jamais partis en vacances. Enfin, c'est quelque chose vraiment que vous connaissez probablement ou peut-être de par grands-parents, tout ça, dans la campagne portugaise. Parce que c'est quand même un monde aussi qui s'effondre d'une certaine manière, les générations d'après partent le plus souvent, et même si elles restent, c'est pas de la même manière.
Et puis il y a tout le contexte aussi de la pandémie qui a dû rajouter à la difficulté. Comment t'as fait d'ailleurs pour aller au Portugal à ce moment-là, voir tes grands-parents? C'était pas dangereux?
Alors, la première fois que j'y suis allé, c'était en décembre, c'était pour Noël, et ils avaient réouvert, il y avait des conditions de PCR et tout ça, mais c'était assez facile d'y aller. Finalement, c'est la deuxième fois que je suis allé pour faire des images, où j'ai dû avoir des autorisations spéciales, mais là, le film était produit, donc il y avait tout un truc qui facilitait un peu la chose.
Laura, tu avais une question pour Joël.
Oui, alors tu y as un peu répondu déjà. C'est vrai que dans Nos printemps passés ne reviendront plus, c'est assez empreint de réalisme. Et du coup, je me demandais si tes projets, au-delà de leur portée artistique, c'était aussi pas une nécessité de créer une mémoire personnelle, ta propre mémoire.
Je pense que, en tant que spectateur, j'adore aller au cinéma et sentir que le geste, il est sincère. Je pense que ça se sent dans le cinéma d'auteur quand il y a une posture, quand il y a quelqu'un qui défend quelque chose, mais qui en vérité soit n'est pas concerné, soit ne le vit pas pleinement de son cœur, avec son cœur. Je trouve que ça se sent tout ça. Donc, et je pense que faut aussi comprendre et savoir que ces projets sont très longs, en fait. Faire un court métrage, c'est parfois 3 ans. Quand je vois tout le cycle, moi j'ai commencé en 2020, la fin de la diffusion, enfin bon, la fin, l'aboutissement, on va dire, avec France Télévisions, c'est quand même 4 ans plus tard. Donc on est quand même sur des cycles. On parle d'un court métrage et pas d'un long métrage. Là, je travaille sur un format plus long, de long métrage en documentaire, où je travaille depuis 5 ans. Donc, faut être vraiment relié à ce que tu racontes. Pour moi, en tous les cas, enfin, je peux pas vivre un projet intensément pendant des années. Enfin, évidemment, c'est pas tous les jours. Évidemment, c'est pas 35 heures par semaine ou 40 heures sur un projet. Mais pour que ça dure, il faut vraiment être empreinte quelque chose et que ça m'habite,
en fait. Et surtout que derrière, tu vas en parler, bah là, en radio, tu vas en parler à la télé, tu dois défendre ton projet. Donc, si tu n'y crois pas, c'est compliqué.
Bah, absolument.
Sophie?
Oui, alors moi j'avais une question. Ce film, je l'ai un peu vu comme une ode à l'amour, un ode à l'amour, de toi envers tes grands-parents, mais aussi de ton grand-père envers ta grand-mère. J'ai trouvé ça très beau. Et du coup, est-ce que tu dirais que, voilà, dans ce que tu as envie de transmettre, il y a aussi, voilà, ce lien avec le passé, le recordar et vivir, empreint de nostalgie. Je l'ai un peu retrouvé dans ton autre court-métrage notamment. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'inconsciemment, je sais pas, ou consciemment, tu portes avec toi?
Ben, merci déjà pour tes mots. Je trouve que... comment dire, peut-être que oui. Mais... excuse-moi, je me suis un peu perdu.
Est-ce que tu dirais que la nostalgie est quelque chose que tu portes avec toi et que tu souhaites mettre en avant dans tes films?
Je pense que oui, il y a quelque chose peut-être de mélancolique, mais je pense que, en fait, ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est d'arriver à la racine de quelque chose. Je pense que quand tu regardes un arbre et la santé d'un arbre, tu regardes la racine. Quand tu as une plante chez toi et tu vois qu'elle est en train de mourir, parfois c'est parce que la racine est pourrie et ça se voit sur les feuilles plus tard. Je pense que la racine, elle raconte beaucoup. Donc mes procès de création en documentaire sont des procès très longs. Je travaille avec un photographe aveugle, Evgen Bouchard, là, depuis 4 ans. Et pour arriver à quelque chose que je considère à la fois vrai, intime, où on dépasse les barrières, qu'on se crée tous de protection et tout ça, etc., il faut du temps. Le projet dont je parlais tout à l'heure, qui fait 5 ans là, c'est un projet où j'arrive à un stade d'intimité aujourd'hui que je n'aurais jamais eu au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines. Tu dis pas bonjour, raconte-moi ta vie. Enfin, la réponse n'est pas la même, le J1 et le J plus je sais pas combien. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose de la nostalgie. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans le sentiment amoureux, pour répondre à ta question. Et je pense que mon grand-père, par exemple, c'est un homme qui a grandi à la campagne, qui va faire 90 ans, là, en octobre, et qui n'est pas le genre de personnalité qui va dire ce qu'il dit dans le film de manière naturelle. Enfin, il va pas s'asseoir autour d'une table et faire une déclaration d'amour ou parler d'amour. Et je pense que ça, c'est un processus que le film a amené d'une certaine manière, puisqu'on a beaucoup parlé, puisque l'enregistrement est arrivé bien plus tard de tout ce qu'il dit. Et je pense que ça a été, quelque part, on s'est retrouvé à un endroit où on ne s'était jamais rencontré, c'est-à-dire à un endroit de vulnérabilité, où être homme, c'est aussi être fragile, c'est aussi être vulnérable, c'est aussi donner face de quelque chose à laquelle, moi, en tous les cas, je n'ai pas trop l'habitude, ou je n'ai pas trop vu à la campagne où j'habitais, en tous les cas. Donc, je pense que, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est arrivé à un endroit d'intimité, et c'est essayer de puiser là-dedans, et si l'amour est le symptôme de ça, voilà.
Super. Bah, tu as bien répondu à ma question.
J'ai passé le test.
Exactement. Alors, il y en a encore à venir.
Moi, j'aurais du coup 2 petites questions pour finir tranquillement. La première, c'est que quand on regarde justement ce film, il y a des impressions un peu de film d'Arte, dans le sens où il n'y a pas de musique, où c'est vraiment, on vit le truc à 100%, on est immergé. Est-ce que tu t'es inspiré des films, par exemple, d'Arte, ou même d'autres films pour réaliser ton court-métrage?
Je n'avais pas de référence comme ça, direct. Alors, il y a eu la question de la musique à un moment, s'il fallait mettre de la musique ou pas. Mais au final, on s'est dit que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir une forme plus radicale qui allait plus droit au but d'une certaine manière, qui n'allait pas mettre de la mélancolie en plus et des violons et tout ça, etc. Je pense que c'est un peu le danger dans ce genre de projet comme ça. Non, je pense que je suis inspiré par tout ce que je vois, de positif et de négatif au cinéma, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et je pense qu'inconsciemment, tu construis un peu des références. Mais j'ai pas une référence, mais pour tous mes projets, j'ai pas une référence où je me dis là, je vais puiser là, ou enfin, peut-être pour un projet, il y a des petites significations sur le sujet, etc. Mais pas des références comme ça, non.
Oui. Merci pour cette riche conversation. On revient tout de suite. Il est bientôt 15h, vous le savez, 15h. On fait une petite pause. Tout de suite, on va s'écouter une musique que tu as choisie, Joël. Mmh. C'est Sportsman de Haruomi Ozono. Mmh. Je le dis bien. Et on revient, je vous propose d'ici 5 minutes pour parler un peu plus en profondeur de Si loin de Kaboul, donc ton autre film documentaire. Mmh. Alpha. 15h05, vous êtes bien sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt 2.1. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Nous sommes toujours avec le réalisateur Joël Cartaxo Anjos et on va parler de donc ton premier court-métrage sorti, Si loin de Kaboul. Il traite d'un sujet très fort dont maintenant on parle beaucoup, hein, comme je le disais quand je parlais du film de Claudia sur tout ce qui peut se passer en Afghanistan, notamment pour les femmes. Tu as fait tes études en recherche sur le cinéma en Afghanistan, c'est bien ça. Mmh. Est-ce que c'est comme ça que tu as eu l'idée de ce documentaire ?
Non, ça s'est fait à l'envers en fait. J'ai fait un premier master professionnel qui était autour du documentaire, où on avait un exercice à faire un moment autour de lieux d'artistes, et je me suis intéressé à l'absence de lieux de création pour des artistes réfugiés ou demandeurs d'asile en France, ce qui m'a amené à la rencontre de pas mal de Syriens et d'Afghans. Et quand j'ai rencontré Marina Gulbari, donc l'actrice dont je fais le portrait, ça a été comme une évidence en fait. Et de Marina, j'ai rencontré beaucoup de réalisateurs et beaucoup d'artistes afghans. Et j'ai fait un deuxième master, la recherche sur le cinéma en Afghanistan au début des années 2000, donc après la soi-disant fin du régime des talibans au début des années 2000.
Ok.
Et moi, j'avais une question de mon côté sur le fait d'interviewer une migrante telle que Marina Gulbari. Je pense que je ne dis pas très bien son nom, mais je m'en excuse. Et c'est un peu aussi pour tous les enfants d'immigrants que je demande ça, dont nous sommes potentiellement partis en grande majorité ici, que je pose cette question. C'est comment est-ce qu'on aborde ces sujets qui sont lourds avec ses grands-parents ou avec ses parents, et quelles émotions ça fait émerger quand on en parle avec eux, et surtout, au final, ces émotions-là, comment toi, tu les transmets dans un documentaire ou un film, un court-métrage ?
Alors, avec Marina, elle a une histoire assez incroyable déjà de base, puisqu'elle était une enfant de la rue, elle faisait la manche, et un jour, elle est tombée tête à tête comme ça sur Sidik Barmak, donc un réalisateur afghan, qui cherchait une enfant pour son film Osama, qui a eu comme ça une flambée de prix. C'est un peu le film qui a relancé le cinéma en Afghanistan au début des années 2000. Et Marina, en fait, elle a eu comme ça une sorte de passage de la misère à une gloire avec des festivals et tout ça, etc. Elle a pu acheter une maison pour sa famille, envoyer ses sœurs à l'école. Enfin, il y a eu comme ça une sorte de transformation, vraiment une histoire de vie incroyable. Et donc, ça partait un peu de ça au départ. Donc ça, c'était l'histoire qui m'a intéressé, interpellé. Après, en voyant son regard, quand j'ai passé du temps avec elle, quand je l'ai entendu parler et tout, je me suis rendu compte qu'elle avait une histoire... Enfin, familial qui m'a intéressé plus qu'une histoire un peu VIP de gloire, misère et tout ça. Et je pense, pour répondre à ta question, que voilà, il y a quelque chose qui n'a absolument rien à voir, puisque c'est pas pareil de venir du Portugal et venir d'Afghanistan, c'est absolument, enfin, pas la même chose, on peut pas comparer, mais du fait d'avoir grandi, d'être né en Suisse, de partir au Portugal tous les étés, de partir vivre au Portugal à l'âge de 7 ans, de venir à Paris en 2019, enfin, ça crée comme ça une sorte de... Enfin, moi, mon enfance, elle s'est passée beaucoup dans les aéroports, beaucoup dans les départs, dans les retours, ma grand-mère qui pleure quand on part, on va plus jamais se voir, et puis après, on revient, mes parents qui sont heureux de partir au pays pendant l'été ou quand il y a des vacances. Enfin, non. Il y a comme une construction de vie, d'aller, de retour, qui fait que je pense que je suis plus sensible à ça qu'une personne qui est restée dans son pays depuis toujours et qui n'a pas des racines ailleurs ou moins. Voilà, ça vient de là au final. Et je pense que dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure par rapport à venir à la racine, d'aller vers l'intime et tout ça, etc., le fait qu'elle s'adresse à sa famille dans le court-métrage Si loin de Kaboul, ça me permettait aussi de raconter le lien décousu et finalement le retentissement de l'exil et du statut de la femme au final en Afghanistan.
Oui, ouais, c'est un sujet très important aujourd'hui. Mmh. Comme je disais, qui est aussi traité dans le film de Claude. Vraiment, pour moi, c'est un peu une suite du tien, quoi, parce que ça se passe du coup après tout ce qui s'est passé avec les talibans. Mais pour revenir à quelque chose de plus concret, on dirait, Si loin de Kaboul, elle a aussi été diffusée sur France TV. Mmh. Je voulais savoir comment s'est fait le contact avec France TV, parce que c'est quand même incroyable d'être diffusée sur France TV en France, justement. Est-ce que c'est toi qui es allée vers eux ou c'est eux qui sont venus vers toi ?
Alors, c'était dans un cadre très particulier parce que j'ai fait un master à la Sorbonne, qui était un master professionnel qui existe toujours, même dont le partenariat a un peu changé. Et en fait, on était 14 au départ. On écrivait autour de lieux d'artistes, comme je disais tout à l'heure, pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, on présentait un dossier et il y avait donc France 3, une commission qui était l'Université Paris, France 3, la DAMI et le Festival Premier Plan, qui se mettaient tous autour d'une table et qui choisissaient 6 projets. Donc, il y avait un préachat France 3.
Ah oui.
donc il a été préacheté par France 3, qui a mis de l'argent sur la table, qui a permis au film d'exister, avec les autres partenariats. Il a été diffusé une fois. Bon, après, il a été diffusé 4 ou 5 fois en tout à France Télévisions. Et sinon, pour nos printemps passés, c'est un peu différent. Ce n'était pas un préachat, c'était un achat après coup, ce qui est un peu plus difficile normalement à avoir. Mais voilà, ça, c'était une grande chance pour les deux films, puisque ça permet pour un court métrage d'avoir une diffusion à une échelle qu'on ne peut très difficilement avoir en festival. Et même, enfin, pas du tout presque, j'ai envie de dire, puisque c'est arrivé quand même à un nombre de spectateurs.
Ah bah c'est clair que c'est une chance France TV quand même. On a eu une question sur le WhatsApp du coup de Loïc qu'on embrasse. Il demande quel sentiment ou sensation procure le fait de réaliser des films de documentaires. C'est très philosophique comme question.
Ben c'est une très belle question, je trouve. C'est que en fait, on est traversé par... moi, en tous les cas, je peux pas parler pour les autres, mais je suis traversé par beaucoup, beaucoup de choses. C'est très dur de faire du documentaire. C'est très dur financièrement parlant, puisque c'est beaucoup de temps pour arriver à des fonds. Enfin, ça demande un engagement, du temps, de la patience, de l'endurance. Enfin, ça demande vraiment beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a quelque chose de miraculeux dans le documentaire. Je pense que c'est assister au miracle de la vie, en fait. C'est qu'il y a des moments, là ça m'est arrivé il y a quelques semaines, j'étais en train de tourner avec l'actrice afghane de Silence de Kaboul avec qui je continue à travailler, et il y a eu un moment comme ça où tu vois la vie défiler devant toi, où les choses prennent du sens, où il y a une sorte d'élévation, je sais pas comment expliquer, c'est assisté quelque part à un miracle de quelque chose. Ce qui s'est passé avec mon grand-père, il y a un endroit de rencontre où jamais on aurait eu cette conversation aussi intime si ce n'était pas à travers le film Marina, ce qu'elle arrive et tout le processus, parce que là, enfin, je peux pas trop en parler là pour le moment de ce projet-là, mais tout le processus qui nous amène jusque-là, c'est un processus qui va beaucoup au-delà d'un film. Enfin, c'est une expérience de vie, c'est une expérience personnelle, c'est quelque chose qui... Et je pense que voilà, enfin, j'aime beaucoup le documentaire parce que je trouve que ça nous amène à des endroits de nous, en fait, que soit on ne connaît pas assez ou... Enfin, ça permet vraiment de découvrir. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez miraculeux, je trouve.
Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Je sais pas vous, mais Mais non, mais je trouve que les documentaires ont. C'est vraiment différent de la fiction parce que on traite vraiment de l'humain et du réel. Et comment dire ? En fait, ça a l'air contradictoire, mais en réalité, il y a plus de liberté artistique dans le documentaire que dans la fiction. Je sais pas si vous êtes d'accord. Laura, vas-y.
Oui, comme chaque grand projet, en fait, tu donnes vie à quelque chose en quelque sorte. C'est un peu peut-être ce sentiment-là de quand ça se termine, tu comprends pas tes émotions, enfin comme par exemple à petite échelle un mémoire que du coup t'as pu faire, mais quand ça se finit, tu ne sais plus quoi faire en fait. C'est comme donner vie d'une certaine façon. Ouais.
Petite. Mais toi, Joël, tu sais quoi faire puisque là tu te lances dans des longs métrages cette fois. Donc tu nous as parlé un peu donc de l'actrice afghane avec qui tu travailles, mais aussi d'un photographe aveugle. Et je sais que ça pose beaucoup de questions. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus et quand est-ce qu'on pourra voir ça quelque part?
Alors là, il est en production. Moi, j'ai commencé à tourner une partie déjà. Donc, j'ai tourné une partie en France, une partie en Slovénie. C'est un projet dans lequel je suis Evgen Bauchar, qui est un photographe slovène, et qui est devenu aveugle à l'âge de 11 ans à la suite de 2 accidents successifs. Alors, le premier, il y a une branche qui est tombée dans son œil alors qu'il courait dans le bois. Et quelques mois plus tard, il était enfant, donc il avait 11 ans. Il était dans le garage de son oncle ou de son père. Il tapait sur une petite boîte qu'il essayait d'ouvrir, une boîte rouge. Il y en avait beaucoup en Slovénie, on en parle pas assez, mais c'est quand même un truc qui a fait que beaucoup d'enfants sont devenus handicapés, amputés, aveugles et tout ça. C'est qu'en fait, il essayait d'ouvrir la boîte rouge, il tapait dessus, et ça a explosé puisque c'était un explosif qui avait été gardé de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, suite à ces 2 accidents successifs qui sont arrivés il y a eu 6 mois d'écart entre les deux, on va dire, il est devenu aveugle et puis il a commencé à prendre des photographies plus tard pour faire comme les autres enfants, puisqu'il y a tout un retentissement de ne plus pouvoir faire comme les autres, de ne plus pouvoir jouer au foot et tout ça, etc. Et moi, j'ai rencontré Evgen il y a 5 ans, je crois, 5-6 ans. Et c'est devenu un ami, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un grand philosophe, il a presque 80 ans aujourd'hui. Ben, c'est bientôt son anniversaire d'ailleurs. Et en fait, moi, ça m'intéresse beaucoup de... Enfin, et je pense que ça revient un peu à ce que je fais avec Marina d'une certaine manière, c'est-à-dire regarder la marge de la société, de raconter comment la marge raconte toute la société, puisque c'est la société qui crée la marge aussi. Donc je pense qu'en regardant et en allant vers l'intime d'une actrice réfugiée afghane ou vers un photographe aveugle ou une personne handicapée ou porteuse handicap, c'est aussi raconter comment... Où est-ce qu'on les place en tant que société, quoi? Quel est leur regard qu'on porte sur eux? Et d'humaniser au maximum, d'aller vers cette personne, d'essayer de créer une empathie et de se rendre compte que chair et eau... Enfin, il y a quelque chose où on est tous... Enfin, c'est un peu cliché, mais on est tous pareils, quoi. Mmh. Enfin, il y a quelque chose de... Enfin, qui m'importe, moi, d'aller à cet endroit-là.
Et est-ce que tu dirais que c'est ça, la chose la plus importante à revenir de ton travail? C'est, en gros, penser aux personnes qui sont peut-être un peu... loin de ce qu'on pourrait imaginer, peut-être un peu marginalisé, et se mettre à leur place, découvrir un nouveau monde. C'est ça que tu souhaites faire?
J'aimerais beaucoup me dire que... J'espère en tous les cas que mon travail puisse sensibiliser les gens à des questions. J'aimerais beaucoup en tous les cas me dire qu'un spectateur qui va voir ce film sur Evgen ou le film que je vais faire sur Marina en sorte en se disant « Ah, j'avais pas réfléchi à ça » ou... je m'étais jamais posé la question. Enfin, que ça ouvre, en fait. Je pense que le cinéma dont je rêve, le cinéma que j'aime en tant que spectateur et le cinéma que je rêve de faire, c'est une fenêtre, en fait. Enfin, qui s'ouvre. Qui ne se referme pas, en tous les cas.
Ouais, une fenêtre qui s'ouvre sur le monde, c'est une très belle citation pour finir. Sophie, tu as encore une question?
Oui, du coup, tu parles du cinéma que tu aimes. Moi, personnellement, je suis très curieuse de savoir quel est le cinéma que tu apprécies, s'il y a des noms de films ou de documentaires, de réalisateurs qui t'ont inspiré, que tu apprécies beaucoup aujourd'hui. Ça peut être intéressant pour nous d'en savoir plus.
Moi, j'aime beaucoup le cinéma... J'aime beaucoup le cinéma iranien, j'aime beaucoup le cinéma afghan. J'ai pas mal travaillé dessus parce que j'ai écrit sur le cinéma afghan. Je trouve qu'il y a une vraie urgence dans ce cinéma-là, du fait de la politique, du fait d'une nécessité. Enfin, quand on pense à un réalisateur qui sort là, enfin, ça va sortir dans une semaine, deux semaines, Les graines du figuier sauvage de Razoulov, qui est en France et qui est en train de le présenter en ce moment à Paris. C'est des films où il y a une vraie urgence. Enfin, il a été en prison, ce réalisateur-là, tout comme beaucoup de réalisateurs iraniens. Donc il y a une nécessité viscérale, il y a une urgence, il y a une nécessité. Enfin, ce cinéma qui crie, qui est engagé, qui est sincère, qui est à la première personne d'une certaine manière. Enfin, tout ça, c'est le cinéma qui me parle le plus et qui m'émeut le plus. Enfin, les fois où je suis ému au cinéma, c'est à travers ces films où tu sens qu'un réalisateur ou une réalisatrice est en train de crier de l'autre côté et que c'est un cri du cœur, quoi.
Et c'est ce qu'on ressent dans tes films, en tout cas pour ma part. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que ça a été intéressant pour toi et pour nos auditeurs. Et on a déjà hâte de suivre tes prochains projets. Surtout, je pense, avec le photographe aveugle, je pense que là, ça a intrigué beaucoup, beaucoup de monde. En tout cas, restez avec nous. Nous sommes en direct jusqu'à 16h. Tout de suite, on s'écoute Even de Richie Campbell, Vanzi et Frankie on the guitar. Et d'ici 5 minutes, on se retrouve pour la curiosité de la semaine avec Laura. I know I promised you the world, but then I took your talk back. Said that I was there, but then we get up and walk. No, you tell me if you speak up, but I never want talk. All this time I took, I wish I could have given that back. A sunshine outside, but inside me head dark. Money could have never changed that. And I know my pride bigger than my heart. Ain't it funny how it always comes back? Cause I know that I hurt you, but I want you to know that we even. Cause I hurt myself too, I hurt myself too. Said I know that I hurt you. I want you to know that we even. Cause I hurt myself too, I hurt myself too.
No, it's my bad that I still miss you in the morning. Man, I hardly seen you this week, been wondering where you been. I'm at the same spot, baby, now it's pouring. Wishing I could make you feel some more than I do right now. Deixa só falar caution. Tem problemas com flash desses, shellys não com left. Day one shorty preocupada que eu não vou. Promessas que eu não devia ter feito, mas eu sei que não há forma de mudar. We can't still change. You know it hurt both ways. Não dá pra disfarçar o sentimento pela noite fora. Me tudo demasiado tempo no meu corpo. Wish we could talk one day. Forget we lost our way. Pra ser sincero, às vezes custa pensar. Girl, I hurt you. Queria poder voltar. Cause I know that I hurt you. I want you to know that we even. Cause I hurt myself too, I hurt myself too. Said I know that I hurt you. I want you to know that we even. Cause I hurt myself too, I
I hurt myself to ruin my life filled with fear. So why would anybody wanna share this life? Could say it get better, but you know I can't lie. Girl, you know I'm cool even when I'm inside. And I beg you, wipe those tears, I don't wanna see you cry. When was the last time you felt butterflies? You can run to that boy, but no sparks not gonna fly. Tell a brother he can have it, cause you know you're still mine. And change, you know it hurts both ways. I guess I met the right one at the wrong time. Guess I wrote another bad, I don't write. Wish we could talk one day, but yeah, we lost our way. I just wish to pensar, girl, I hurt you, but I can never come back.
Cause I know that I hurt you. I want you to know that we even. Cause I hurt myself too. I hurt myself too. I know that I hurt you. I want you to know that we even. Cause I hurt myself too. I hurt myself too.
I know that I hurt you. I want you to know that we even. Cause I hurt myself too. I hurt myself too.
Said I know that I hurt you. I need to find out if I ever can go on without you. Go on without you.
Oh. 15h26, aujourd'hui, on découvre la plume de Laura qui nous présente la curiosité de la semaine.
Merci Julie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la 9e audition de la Foire d'Art Contemporain AKAA, also known as Africa, qui aura lieu du 18 au 20 octobre au Carreau du Temple à Paris. Alors cette foire, c'est un rassemblement où se réunissent en fait les galeries, les artistes et autres professionnels de l'art pour présenter leur travail en gros. Mais cette année, c'est un peu spécial parce que parmi les 39 galeries d'art qui sont représentées, on pourra retrouver 3 galeries lusophones, à savoir la Perf Galerie, qui se situe à Lisbonne, et les galeries Movart et This is not a white cube, qui se trouvent aussi à Lisbonne, mais qui ont été fondées à Luanda, en Angola.
Ok. Mais c'est quoi, en fait, c'est quoi exactement une galerie pour les gens qui ne sont pas spécialistes de l'art comme toi?
Alors, une galerie, en fait, c'est un endroit, c'est une entreprise, on va dire. C'est privé, mais c'est un endroit où, en fait, on présente des artistes, on représente même des artistes et leurs œuvres. Et donc on a des expositions, où, enfin chaque galerie a son fonctionnement, mais voilà, en gros c'est ça. Et puis du coup cette foire, AKAA, ce sera une bonne occasion de connaître les différentes scènes artistiques et lusophones cette année.
Bah oui, c'est super qu'il y ait autant de lusophonie à Paris, je pense que c'est quand même assez rare pour être souligné. Et du coup il y aura plusieurs artistes de cette même galerie.
C'est ça. Alors, en fonction des galeries, j'imagine qu'elles choisissent les artistes qu'elles vont représenter. C'est vrai que cette foire d'art, elle est tournée autour des regards ultramarins. Donc, en fait, des diasporas africaines.
Ok.
Et donc, j'espère qu'on pourra voir des choses intéressantes du côté de la lusophonie.
Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette information. J'espère que vous serez nombreux à vous y rendre. Et tout de suite, on va s'écouter une découverte musicale d'un rappeur lusophone qui s'appelle Fab. Son titre, c'est Tudo, et on espère que vous allez aimer.
Petit à petit, sans sur moi. Elle voulait qu'on soit chez moi. Alors qu'hier, elle était dans ses draps. Elle m'appelle pas quand ça va. Moi, je suis là que quand ça va pas. Ma hello, elle était là. C'est ta faute à toi. Ah, 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 rassure-moi. Que j'aurais pas du sang sur moi. Si ça casse, qu'on sépare. Y'aura plus jamais de casse départ. Ah, 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 rassure-moi. S'en fout tant qu'on casse des barres. Ah ah ah, j'assure moi. Tant que tu restes sur moi, on ira tout, 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 tout. J'appelle la chance de ne pas oser. Jolis mots, ça reste en paresseux. Reste en couché, reviens par ici. Des bisous, des câlins, des...
C'est l'heure de la chronique musicale. Elle s'appelle Antol Disquert Porto. E vamos falar em português. Estamos de volta no Porto, não é? Estávamos a falar do Porto com o Ricardo. Já não paramos, já percebi. Não é a minha zona, mas pronto, por que não? O que é que encontraste hoje, Antonão?
Ah, hoje encontrei uma coisa de fado. Vamos ver. Olá pessoal a todos. É o Antol Disquert do Porto. E hoje vamos mergulhar nas melodias profundas do fado, mas com um toque um pouquinho especial. Vamos falar de Mísia, uma das vozes mais marcantes do fado contemporâneo. Conhecem aqui a Mísia?
Eu ouvi falar, mas por causa do seu falecimento este verão, não tinha ouvido especialmente antes.
Eu não conheço.
Ah, eu não conhecia também como a Julie, não conhecia ainda do seu falecimento, trágico, mas falecimento este verão. Era o dia 27 de julho e hoje essa rubrica também é uma sorte de homenagem a esta artista que marcou uma geração, a geração do fado depois da ditadura, a partir dos anos 90. Então, Mísia é nascida em 1955 no Porto, é filha de mãe catalã e do pai português. Então, desde cedo tinham apenas duas culturas. Então, como dissemos, faleceu este verão, mas ela teve uma carreira internacional, tanto em Portugal como em França, onde teve um impacto muito grande. Mas vamos voltar a este ponto um pouco mais além nesta rubrica. E acabamos de entrevistar o Joel e os seus filmes. Um dos seus filmes que me marcou pessoalmente foi o Cirão de Cabul, que retrata a vida e especialmente a migração e o que recente depois da sua migração, a Marina Goulbahari, refugiada afegã em França. No documentário, a atriz teve uma frase muito forte que me marcou mesmo. Disse que mesmo se agora em França tivesse a liberdade de rir-se, de verdade não podia, porque estava separado dos que amava e do que amava. Também marcou o pessoal aqui
essa frase. Sim, é verdade, que eu acho que mostra também a saudade portuguesa. Exatamente. E acho que ilustra o facto de essa saudade afinal não é só portuguesa, é internacional.
Exatamente, e compreendeste mesmo o ponto da minha rubrica, que hoje estou a falar do fado, e é por isso que era a introdução com a croche, como dizemos em francês, desta rubrica, porque é o documentário que fez-me ressentir isto e que decidi abrir sobre o fado e a história do fado e a história desta cantora, que é a Mísia. Então vamos começar agora com um dos seus títulos mais famosos, que chama-se Fado do Retorno. Escutamos um extrato agora mesmo. Conhecia esta canção?
Não, nunca conheci. É okay. Muito linda.
Eu também não conhecia o nome, mas por acaso já tinha ouvido a canção. Quando eu escutei, ouvia pela primeira vez esta semana, tipo, ah, lembra-me lá alguma coisa. E eu senti essa coisa, essa saudade que é tão característica do fado. Então era um excerto de fado do retorno por Mísia, mas por acaso não era só Mísia. Era um par com uma artista francesa, Agnès Jaoui, que é uma famosa atriz, cineasta e cantora até francesa. Então, esta canção é mesmo a essência do fado, é um lamento, se lerem a letra desta canção, é um lamento do que está longe, a saudade do que ficou e a celebração dos reencontros, sobretudo. Aqui, a Mísia canta sobre o momento de voltar à coisa ou às pessoas amadas, de reencontrar o que se deixou para trás. A letra descreve a chegada da alma amada, os seus primeiros gestos ao chegar ao lar, depois de uma longa ausência. Com a emoção da voz e do violão, transmite-nos mesmo um misto de alegria e de dor um pouco. Talvez é porque voltar é um pouco reviver o passado, por vezes perceber que não somos exatamente a mesma pessoa do que antes. É mesmo uma questão muito poderosa para mim e gostei muito de redescobri-la.
Sobretudo para ti, que voltaste depois de um ano no Japão, não é?
É verdade, é verdade. Nem tinha pensado neste assunto. É verdade que quando aterri em França, voltar à casa, voltar a ver os pais, voltar a ver os amigos, sempre esses primeiros gestos são uma coisa verdadeiramente especial e sempre gosto muito de viver isto. E só por esta coisa, talvez, ir longe e voltar é uma boa coisa. Mas então, voltamos à Mísia e um pouco menos em mim. Uma das particularidades das canções da Mísia é que ela dava voz aos poetas. No seu disco Garras dos Sentidos, editado em 1998, e também noutros, ela canta poemas de Fernando Pessoa, de Mário de Serraque Carneiro, e aqui é de Lídia, mas também fez contemporâneos como o José Saramago, Lídia Jorge, desculpem-me, José Saramago e Lídia Jorge. A parte de poetas portugueses e lusófonos, ela também fez versões de canções, por exemplo, Amália Rodrigues, claro que enquanto fadista tens sempre um momento onde vais fazer uma canção de Amália Rodrigues, e até também fez canções do cantor francês Jacques Brel, que provavelmente que todos conhecemos. A cantora do fado Mísia, então, ela alcançou imensa popularidade, tanto em Portugal como no estrangeiro, como disse já antes, e não só nas comunidades imigrantes. Esta versão que já ouvimos agora, esta versão da canção O Fado do Retorno, foi gravada em duo, como já disse, com a Agnès Jaoui, mas também a Mísia atuava em França frequentemente. Ela recebeu ali prémios pelos seus álbuns. Em 2004, foi condecorada com o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras e, em 2005, a Ordem do Mérito Francesa. Então, talvez lembrem-se do concerto da Cigale em 2016, no qual ela já se combatia o cancro, da qual ela morreu uns anos depois. Ela fez esse concerto com António Zambujo, marcou as memórias, talvez. Foram aqui, pessoal?
Não. Infelizmente não.
Também não.
Eu acho que era jovem demais.
Também penso. Eu tinha 14 anos. É um pouco jovem demais, mas queria ter ido. Sobretudo que agora não podemos.
Mas podemos ver o António Zambujo ainda.
Exato. Mas então, para continuar nesta mistura cultural entre a França e Portugal, vamos ouvir mais uma música dela, desta vez quase inteiramente cantada em francesa, em francês, La Chanson d'Hélène, que chama-se, que é uma com a voz falada do Iggy Pop, que é um artista americano de punk, e também ela, Mísia, que canta. Vão ver, o Iggy Pop tem uma voz mesmo profunda, que fala lentamente, calmamente nessa música, e é mesmo muito emotivo. La Chanson d'Hélène com o Iggy Pop, da Mísia. Thank you.
septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe comme une dédicace dans le ciel.
Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je sais plus t'aimer, Hélène.
Avant, dans la maison, j'aimais quand nous vivions comme dans un dessin d'enfant. Tu ne m'aimes pas. Soir tombé, tombé dans les miroirs, c'est la vie.
C'est bien ainsi, Hélène. C'était l'amour sans amitié.
Comme dit Iggy Pop, era la chanson d'Hélène, que é uma cover da música do filme francês Les Choses de la Vie, foi publicada em 2000. Não. Em 1970.
Um pouco
muito,
antes.
É, isso, muito antes. Não, mas a versão da Mísia e do Iggy Pop foi publicada em 2013. É por isso que eu confundi. Mas também confundi outra coisa. O Jacques Brel é belga, não é francês.
Não
faz
mal. Desculpa.
É, tá.
É francofonia.
Vamos dizer isso. Mas daqui a pouco acabamos este retrato desta grande artista que foi a Mísia. E para concluir, vamos ouvir uma última música dela. Fado, adivinha. Vamos ouvir já teaser antes de acabar essa rubrica. Olha, ouçam essa música.
Quem se dá, quem se recusa, quem procura, quem alcança, quem defende, quem acusa, quem se gasta e quem descansa, quem faz nós. Quem os desata, quem morre, quem ressuscita.
Então, muito obrigado a todos e todas por me ter acompanhado nesta homenagem a esta grande fadista contemporânea. Mísia realmente soube dar um novo impulso a este estilo e recretamos todos a sua morte em 2024. Então, já que estamos a falar de concertos em França, Roberto Carlos, o cantor da MPB, o rei, a lenda viva, regressa em Paris para uma data única, sábado 28 de setembro. O concerto está marcado às 20 horas na Adidas Arena, perto do Porto de La Chapelle. Este evento faz parte de uma breve turnê europeia, com apresentações também em Lisboa, Meio Arena, Braga, Fórum Braga e Geneva e Madrid. Com uma carreira que abrange mais de 50 anos, Roberto Carlos lançou mais de 40 álbuns e vendeu mais de 140 milhões de discos. Conhecido por suas baladas românticas e sucesso internacional, ele canta em várias línguas, incluindo português, espanhol, inglês, italiano e francês, mesmo um craque. No início da próxima semana podem tentar ganhar bilhetes através do WhatsApp. Lembro, o número é o 06-62-10-98-60. Volto a dizer 06-62-10-98-60. Não perca a oportunidade de celebrar a música de Roberto Carlos ao vivo em Paris com o apoio da Rádio Alfa. Bilhetes à venda nos locais habituais e no site losproduccion.com.
Obrigada, Antonin. Acho que toda a gente vai poder participar e é verdade que é um músico a não faltar, mas como a Mísia, que temos todos a ouvir, e vamos agora aproveitar mais uma música, como disseste, não é?
É isso, o Fado Adivinha. Voltamos a ouvi-la inteiramente, que é mesmo uma boa música. Até já.
Quem se dá, quem se recusa, quem procura, quem alcança, quem defende, quem acusa, quem se gasta e quem
casa. Quem faz nós, quem os desata, quem morre, quem ressuscita, quem dá vida, quem mata, quem duvida e acredita, quem afirma, quem desdita, quem se arrepende, quem não. Quem é quem acusa, quem se basta e quem descansa, quem faz nós, quem os desata, e quem morre, quem ressuscita, quem dá vida, quem mata, quem duvida e acredita, quem afirma, quem desdiz, quem se arrepende, quem não.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha et l'émission Themestade de Pan touche à sa fin. Mais avant de vous laisser, vous avez d'habitude quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Tout d'abord, un nouvel épisode de Plus 351, le podcast de Cap Magellan, est disponible depuis hier sur toutes les plateformes d'écoute. C'est une riche discussion autour des études au Portugal. En parlant d'études au Portugal, Cap Magellan sera au salon Partir étudier à l'étranger les 12 et 13 octobre de 10h à 18h, porte de Versailles, pour vous parler des études au Portugal. Et cette année, Cap Magellan est de retour avec son gala annuel. La date vous sera communiqué ultérieurement, mais vous pouvez dès à présent candidater au prix Cap Magellan. Pour rappel, il s'agit de 6 prix financiers de 1 500 € et un prix non financier qui seront remis lors de cette nuit. Vous avez jusqu'au 30 septembre, donc n'attendez plus, retrouvez toutes les informations ainsi que le formulaire sur le site de Cap Magellan. Un appel à témoignages a été lancé pour un long métrage. Nous sommes à la recherche de témoignages anonymes de personnes portugaises homosexuelles ayant 40 ans ou plus. Vous pouvez nous contacter sur themestade@capmagellan.org. Pour les événements à venir, ce week-end a lieu la 23e édition du festival Lavage de la Madeleine, événement qui célèbre la culture brésilienne à Paris avec l'un des plus grands défilés brésiliens de l'Europe. Nous vous invitons à vous joindre à cet événement soutenu par Radio Alpha. Le programme est disponible sur le site lavagedelamadeleine.com. Demain à 21h, Fernando Del Papa sera au studio de l'Ermitage pour une nouvelle roda de samba da Pedra do Sol. Du 19 septembre au 13 octobre a lieu l'exposition solo de Sonia Aniceto, une plasticienne portugaise à Paris. Le festival Fragments de mémoire et de retour, samedi 21 septembre, au Théâtre de la Ville, Sarah Bernard. Et samedi 21 septembre, après avoir écouté Themestade de Point, retrouvez à la Maison du Portugal, la Cité Universitaire, pour la présentation du dernier livre de Daniel Bastos, Mémoire de la dictature, société, immigration et résistance. Rendez-vous à 17h30, la rencontre sera suivie d'une dégustation de Vinho Verde. Et n'oubliez pas évidemment de prendre vos places pour le légendaire chanteur Roberto Carlos qui sera à l'Adidas Arena le 28 septembre ou tenter de gagner des billets dès la semaine prochaine par WhatsApp. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Themestade de Point et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Et merci à vous d'avoir été avec moi et avec nous. Merci Joël d'avoir été présent.
Merci, merci à vous.
Merci pour cette riche conversation. On a vraiment hâte de suivre tes projets. Tu nous tiendras informés. Et merci à vous les filles d'être venues vous présenter.
Merci.
On se retrouve donc dès la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Et tout de suite, on se laisse avec Marie de Matouet, Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.
La semaine prochaine.
A correria me obriga a ir. Eu só queria tempo pra poder ficar. A sua presença é o que me faz feliz. Antes eu achava normal ter que me maltratar. Sempre pondo a responsa em primeiro lugar. Era eu contra o mundo e nada mais vai me parar. É tanta coisa que eu prefiro nem contar. Esqueci tudo no segundo que ela veio me falar. Baby, fica agora, beta na hora. Baby, fica agora, beta na hora. Fica agora,
fica.
Fica agora, beta na hora. Viajar com você é a minha terapia. Em outra vida eu já te conhecia. Traz a vibe santa, sua luz me irradia.